I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Denis Brognard, la figure emblématique de l'émission Koh-Lanta sur TF1, mais aussi du service des sports de la même chaîne. Koh-Lanta revient pour une 20e saison ce vendredi 21 février 2020 avec l'Île des Héros à 21h sur TF1 et à cette occasion, j'ai rencontré Denis Brognard pour retracer avec lui son parcours. Denis nous raconte son histoire de sa plus jeune enfance où il raconte être tellement fan de sport au point d'enregistrer les duplex de football à la radio pour les réécouter ensuite, jusqu'à ses études pour devenir journaliste sportif en passant par sa carrière de maître nageur au Club Med. Et oui, comme quoi tous les chemins mènent à TF1. Il rend aussi hommage à ses mentors sans qui il ne serait pas là aujourd'hui et en profite pour vous offrir quelques conseils pour réussir dans le milieu du journalisme. Et enfin, bien sûr, on parle de ce fameux « Ah !» qui est devenu un mème sur l'internet francophone. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle Histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez commenter cet épisode sur www.histoireavecunsdesucces.com et si l'interview vous a plu, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Denis Brognard. Ça te dérange pas si on se tutoie ?
Ah non, au contraire. Okay. Moi, je tutoie tout le monde.
Toi, tu tutoies tout le monde ? D'accord. Tu recrutes les gens là pour les faire courir, c'est ça ?
En fait, je recrute pas des gens pour aller courir, je recrute des gens pour le Koh-Lanta Run Challenge.
Ouais.
On a créé ça, c'est une course à pied où tu dois créer ton parcours en forme de totem de Koh-Lanta. Et on l'a fait avec les héros qui vont participer à la prochaine saison et on le fait aujourd'hui avec les collaborateurs de TF1. Donc Laura est une collaboratrice de TF1 jusqu'à preuve du contraire. Elle a beau être en très belle jupe, etc. Comme en plus elle a ses affaires, elle a intérêt de venir.
T'as tes affaires ?
5 km avec les collaborateurs. Elle se dit, si jamais je suis obligé,
non, mais oui.
Entre Thomas qui me dit j'ai pas mes chaussures, toi qui me dis j'ai mes affaires mais je sais pas, tu sais le vrai problème ? C'est la météo.
C'est la flotte. Ouais.
Mais le jour où les gens qui sont pas sportifs à bloc comprendront que la pluie ne les fera jamais fondre, normalement, ils viendront.
Denis, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi de t'avoir dans ce podcast. Moi, je suis Koh-Lanta depuis la première édition, je pense vraiment.
Bah, donc, comme t'es très jeune, t'as dû commencer très jeune.
J'écoute, ça fait 20 ans, non, c'est
ouais.
Ça. Donc ça, j'avais 20 ans.
Putain. Ça nous rajeunit pas.
Ça nous rajeunit pas.
Hein.
Et donc, je te suis moi aussi à travers tout ce que t'as pu faire sur à la fois sur Koh-Lanta et aussi sur TF1. T'as fait plein de choses. L'objectif de ce podcast, c'est de retracer un petit peu ton parcours.
Mm-hmm.
La première question que je pose à toutes mes tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Denis quand il avait 7-8 ans.
Je pense qu'il ressemblait à un mini Denis à 7-8 ans. C'est-à-dire que j'avais déjà cette énergie. J'avais déjà ce goût immodéré pour l'évasion et le voyage, mais tout ça était virtuel à l'époque puisque je voyageais pas ou peu avec mes parents en dehors de la France. On faisait du camping. Voilà, donc je rêvais du monde. D'ailleurs, je voyageais par procuration. Je me faisais des films. Je partais de temps en temps en Chine, en Mongolie, aux États-Unis, comme ça dans mon subconscient, dans ma tête. Et j'ai commencé à voyager quand je suis devenu adulte. Hein. Je crois que la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 18 ans.
Ouais.
Derrière, tu vois, j'ai pas transposé ça avec mes enfants parce que je crois que mes enfants ont tous pris l'avion avant d'avoir un mois ou deux.
Ouais.
Donc tu vois, c'est un truc un peu particulier. Mais j'étais déjà avide d'évasion. Et ce que disait mon instinct de CP, puisque 7 ans c'est le CP,
ouais,
globalement,
ouais.
C'est de l'énergie à revendre doit être canalisée, mais toujours prêt, toujours partant, un peu comme les scouts, toujours prêt.
Ok, ça se concrétisait comment cette envie de voyager ? Parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet.
Ah ben non, mais
c'était dans les livres.
Ben ouais, dans les livres, je lisais, je regardais Henri de Montfred, je lisais tout ce qui avait trait à l'aventure. Et comme mes parents étaient assez aussi branchés, en tout cas défis, notamment en montagne, je me souviens d'un livre de Lionel Terray qui s'appelait Annapurna, premier 8000. J'ai lu évidemment Frison Roche tout de suite, premier de cordée. Ça fait partie des livres que j'ai adoré. Qu'est-ce que j'aimais, je suivais passionnément Paul-Émile Victor, Haroun Taziev, voilà, dans des directions différentes, mais avec toujours cette envie de me dire peut-être qu'un jour je ferai un peu la même chose, en tout cas je voyagerai un peu partout. Voilà, j'avais en tout cas à travers les livres, à travers les films, j'allais avec mes parents aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, les plus anciens s'en souviendront, mais d'un réseau de films qui parcourait la France avec le réalisateur qui était présent dans la salle et qui répondait aux questions après le film. Ça s'appelait Connaissance du monde.
Okay.
Et je me souviens notamment d'un film sur le Colorado avec un type qui était pourtant pas tout jeune et qui m'avait totalement transporté. Je m'étais dit, si un jour je peux ne serait-ce qu'aller une fois dans ma vie aux États-Unis, ce sera formidable. Bon, depuis, j'ai un peu rattrapé le temps perdu. Mais voilà, j'avais ce goût immodéré du voyage et déjà du sport.
Et donc, tes parents ne faisaient pas voyager, mais en tout cas, ils t'amenaient quand même dans
si,
des endroits.
Si, on voyageait parce qu'on allait un peu en Italie. Avec mes grands-parents, j'allais un peu en Espagne, en France. Mais on avait déjà ce goût de l'aventure parce qu'on faisait du camping.
Okay.
Et avant que le camping soit très réglementé, on faisait même du camping sauvage en famille à 5. Donc c'est ça qui était assez sympa. Puis ensuite, on s'est embourgeoisé et on a troqué la tente pour une caravane. C'était moins bien. Enfin, c'était moins bien. C'était moins bien et c'était mieux. Parce que pour nous, les parents étaient dans la caravane. Nous, on était avec mon frère qui a 15 mois de moins que moi dans une petite tente. Et qui dit petite tente dit liberté. Et quand tes parents dormaient, nous, on se barrait. Donc on faisait un peu le mur la nuit, et faire le mur la nuit en vacances dans un camping, bah c'est les premières belles aventures de la vie et de l'adolescence.
Comment ça se passe le collège-lycée pour toi ?
Bien mais peu mieux faire.
Okay.
Pourrais plus travailler, pourrais être plus attentif. voilà, j'ai des parents qui ont fait des études brillantes. J'ai une mère qui est prof de maths, donc ça aide pas toujours. Parce que quand tu demandes à ta mère un truc, tu penses que ça va prendre 5 minutes et qu'elle va t'aider, mais en fait, tu reprends le cours 3 semaines auparavant, donc ça dure 2 heures. Je me souviens notamment de cours épouvantables avec ma mère, même si elle dit que j'adorais à l'époque, mais on n'a pas du tout la même perception. Elle repassait le mercredi après-midi dans le sous-sol de la maison, et moi j'étais à côté sur une petite table de camping à essayer de faire mes maths. Parfois même je m'endormais tellement ça me saoulait. Mais voilà, mais élève voilà moyen, ni matheux ni littéraire. Ma mère était persuadée que j'étais matheux parce qu'elle était prof de maths. Mon père qui était plutôt littéraire espérait que je le sois. Et puis à un moment, bah la petite erreur de parcours, troisième, c'est l'adolescence, c'est les hormones, c'est tout ce que vous voulez. Et là, bah je redouble.
Ok.
Ça a été un mal pour un bien, je sais même pas. Je suis pas sûr que j'aurais eu un parcours différent si j'étais passé directement en seconde. Mais voilà, à l'époque on redoublait encore. J'ai refait une troisième. Ça a été un moment un peu brutal parce que qui dit redoubler sa troisième dit laisser partir ses potes qui vont dans un autre établissement, qui arrivent au lycée, donc on devient plus grand. Mais j'en garde pas non plus un souvenir si terrible que ça. Si ce n'est le fait que comme mon frère avait un an de moins que moi. Eh ben, on se retrouvait tous les deux en troisième. Et on a passé, par exemple, notre brevet ensemble, l'un derrière l'autre. Ce qui nous permettait de nous aider un peu.
Et puis, c'est peut-être ton premier échec aussi.
Non, tu l'as pas vécu comme ça. Mais c'est marrant, je l'ai pas considéré comme un échec. Mes parents, évidemment, oui.
Oui.
Notamment ma mère, prof, très scolaire, etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu te rends pas compte, l'avenir. Et puis, maintenant, si tu veux, c'est un peu un boulet que je traîne dans la mesure où, par exemple, mes filles aujourd'hui, mes jumelles sont en troisième. Et quand je me permets de leur faire une réflexion sur le résultat ou sur ce qu'elles font, elles me disent, papa, en troisième, t'étais suffisamment nul parce que t'as redoublé. Voilà, mon fils me l'a dit précédemment aussi. Donc, voilà, comme aucun de mes enfants n'a redoublé pour l'instant, je suis un peu le cancre de la famille.
Jamais raconter votre histoire aux enfants. En fait.
elle n'hésite jamais à me le rappeler et à m'appuyer là où ça fait mal, même si ça fait pas très mal.
Ok. Comment ça se passe le lycée pour toi ?
Le lycée, plutôt bien. Je commence le lycée à Besançon, ensuite j'arrive à Paris en première. Mm-hmm. Je fais une première S. j'aurais pas dû faire ça. J'aurais je fais première S et ensuite terminale C, parce que c'était encore ça, donc très maths. Pour vraiment faire plaisir à ma mère, parce que j'étais pas du tout matheux, j'aurais dû faire D. Et si je m'étais écouté vraiment, j'aurais dû faire B. Donc ES.
B, ES, ouais.
ES. Parce que c'est ce qui me convenait le mieux et ce qui aurait peut-être été le plus pertinent pour la suite de ce que je voulais faire. Ouais. Mais à ce moment-là, j'étais déjà un peu j'étais en conflit avec mes parents. Notamment sur ce que je voulais faire. Ma mère était persuadée que j'étais donc matheux, donc j'allais me diriger vers une carrière où les sciences auraient une importance. Et puis moi, je voulais être journaliste.
Tu voulais déjà être journaliste à l'époque.
Mais je veux être journaliste. Tu me parlais des 7 ans. Je veux être journaliste. Il faut imaginer qu'à l'époque, le samedi soir, j'étais souvent contraint et forcé d'aller avec mes parents à droite, à gauche. J'enregistrais le multiplex à la radio de foot et je l'écoutais le dimanche matin. Non, j'étais déjà un psychopathe. Je lis l'équipe depuis mon plus jeune âge. Mon grand-père me l'achetait en vacances. Je suis le Tour de France depuis que je sais à peine lire. Voilà, j'ai toujours regardé le foot. J'ai toujours adoré ça. Je voulais moi être journaliste et journaliste de sport.
T'as très vite fait le pont entre ta passion pour le sport et le fait d'être journaliste.
Exactement. Okay. Mais c'est pour ça que j'invite les jeunes qui m'écoutent, qui sont encore en période scolaire. Écouter les parents, c'est bien, mais c'est pas la panacée. Moi, j'aurais pas dû les écouter puisque à la fin de ma terminale, moi, je voulais faire 3 ans de fac et puis ensuite intégrer une école de journalisme. Et quand j'ai parlé d'une fac d'éducation physique pour préparer le professorat de sport, là, c'est comme si je leur avais dit que j'arrêtais mes études. Okay. Donc, ça a été compliqué. Donc, pour leur faire plaisir et uniquement pour ça, je suis allé en médecine. Ce qui m'a permis de rencontrer des potes sympas, des gens que je connais encore aujourd'hui, d'avoir mes premiers émois amoureux, mais rien au niveau de la médecine. Et j'ai fait 1 an, puis la deuxième partie de la deuxième première année. Ouais. Et puis je me suis barré du jour au lendemain au Club Med, parce que j'avais un diplôme de maître nageur que j'avais passé en parallèle. Et j'ai prévenu mes parents le jeudi soir que je partais le samedi.
Ah oui, donc c'était une fuite quoi.
Une fuite. Et ma mère me dit, mais dis donc, t'es pas en vacances? Ben, j'ai dit, non, je suis pas en vacances, j'arrête. Et la seule chose qui les a rassurés, c'est que je leur ai dit, mais rassurez-vous, j'ai dealé avec le club pour pouvoir revenir une semaine au mois de mai pour passer les concours pour intégrer une fac de sport. Ce que j'ai fait.
Okay.
Puis ensuite, j'ai fait mes 3 ans avant d'intégrer une école de journalisme.
Comment t'as fait? Donc, t'avais quoi, 19 ans, c'est ça, sans doute, là?
Ouais, 19 ans.
Pour te dire, maintenant il est temps de m'émanciper et de venir dire à papa, maman que.
Ras-le-bol. C'est-à-dire que j'avais fait une année de médecine où je travaillais pas. Donc, quand t'es en première année de médecine, tu travailles pas, t'as de mauvais résultats. Et ma mère m'avait dit, mais c'est pas grave, tout le monde l'a en 2 ans, mon chéri, ça va aller. Donc, j'avais fait semblant de la croire. Puis, je suis reparti dans une deuxième première année avec la même motivation, c'est-à-dire une motivation proche du néant. Et donc, j'ai pas plus travaillé. Donc, j'ai pas plus progressé. Donc, au mois de février, j'avais des résultats encore faméliques, des résultats absolument nuls. Je n'avais aucune chance d'intégrer la deuxième année. Puis, je le voulais pas. Donc, un jour, je me dis, ça suffit.
T'as un déclic.
Je parlais à peu près correctement anglais. J'avais un diplôme de maître nageur. J'avais le bac. Je suis arrivé au Club Med. J'ai rencontré le recruteur qui avait quand même pas l'habitude d'avoir des profils comme le mien pour ses postes. Je l'ai rencontré le mardi. Il m'a rappelé le mercredi. Il m'a dit, est-ce que tu peux partir jeudi prochain? Je lui ai dit oui. Et j'en avais jamais parlé à mes parents.
Wow.
Donc mes parents recevaient des amis un soir, la veille, le mercredi soir, je partais le jeudi, j'aurais dit au fait, demain je pars au club. Tu pars au club, et à l'époque le club c'était pas ce que c'est aujourd'hui, c'était encore les bronzés, c'est 89, hein. Donc c'est une période, je dis je pars au Club Med, mais t'es pas en vacances, non mais je pars travailler, mais tu vas pas travailler, oui je vais devenir maître nageur et responsable des sports terrestres là-bas, et je sais pas quand je rentre, soyez rassurés, je passe les concours pour rentrer en fac de sport, et comme j'avais plutôt un bon niveau en natation, je savais que j'aurais le concours, donc voilà, maintenant en gros je prends ma vie en main. Ma mère a accusé le coup. Et mon père, lui, je me souviens, m'a emmené à Orly. Je prenais l'avion.
T'es allé où exactement au club?
À Marbella.
Ok.
Marbella. Ensuite, je suis allé au Portugal, à Dabalaya. Et c'était effectivement, c'est le début de la vie adulte. T'arrives, tu dis, mais c'est génial. T'as la liberté, personne t'emmerde. T'as une forme de responsabilité. T'es au Club Med, c'est une période encore sympa. Tu rencontres beaucoup de nanas. T'as une bande de potes. T'es maître nageur, t'imagines? Donc tu te retrouves au soleil. Aucun coup de fil aux parents pendant des mois. Je suis rentré une semaine.
Ça veut couper le cordon.
Et puis voilà. Et puis ensuite, je suis reparti. Mais ensuite, j'ai continué à travailler. Alors plus au Club Med parce que je voulais partir avec. Ma copine de l'époque, donc j'étais au Club Aquarius, mais toujours dans des endroits sympas. Et l'été, plutôt que de bosser dans un centre commercial, dans la réserve, à porter des palettes, j'étais au bord de la piscine avec un maillot de bain, c'était plus sympa.
Qu'est-ce qui t'avait amené à la natation auparavant? C'était
mes parents.
Ouais.
Mes parents, parce que si tu veux, t'es à l'époque, moi c'était sport pour tous et les sports essentiels. Tu faisais de la gym, de la natation ou de l'athlé, voire les trois. Je me souviens qu'à une époque, j'avais émis le souhait potentiellement de faire du tennis. Il a fallu attendre un moment avant que je fasse du tennis, parce que c'est le sport de riche, ça coûtait cher. Mais ça, je regrette pas. Tu vois, autant pour les études, même si ma mère n'est pas d'accord avec ce que je dis, je maintiens. Autant pour le sport, on a été tout de suite mis dans des très bonnes conditions. Et comme moi, j'adorais ça, j'ai tout de suite eu un niveau correct et je me suis éclaté. Je partais le week-end en compétition de jeunes. Ensuite, comme j'avais plutôt un bon niveau, j'étais surclassé pour aller dans les compétitions adultes. Donc, c'était très sympa.
Et tu te lances en même temps dans des études pour devenir
prof de sport.
Prof de sport, c'est
ouais,
ça.
Exactement.
Donc aucun lien a priori avec le journalisme sportif à ce moment-là.
Bah si, et le sport toujours.
Oui.
Et pourquoi? Parce que moi on m'avait dit qu'il fallait Bac+2 ou Bac+3 pour intégrer les écoles.
Okay.
Donc à ce moment-là, je suis pas sûr que j'ai fait le meilleur choix parce que la voie royale c'est plutôt faire Sciences Po, faire une fac d'histoire, de lettres, de langues. Mais bon, à cet âge-là, moi j'étais partisan du moindre effort. Je vais vivre en Normandie, donc loin de mes parents. J'habite au bord de la mer, mais vraiment au bord de la mer. Comme j'avais fait une année et demie de médecine, même sans rien faire, j'avais quand même un bagage qui me permettait d'être facile dans mes études de sport, donc tout va bien. Là, je passe d'un nul en fac de médecine à l'un des meilleurs en fac de sport. Donc je fais ça assez tranquillement et je commence à préparer les concours des écoles de journalisme. Et je me retrouve à l'Institut pratique de journalisme et je lance, je réalise mon premier rêve, c'est-à-dire déjà d'intégrer une école qui, je crois à cette époque-là, et heureusement c'est ce qui s'est passé, m'assure ce destin de journaliste. Je sais pas à l'époque si ce sera la radio, la presse écrite ou la télé, dans quelles conditions, mais en tout cas je me dis, ça y est, je vais y arriver, et il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas dans mon domaine de prédilection, le sport.
Ok, j'imagine qu'il y a pas, il y a beaucoup de journalistes de sport dans la promo, enfin, en tout cas qui se destinent à vouloir devenir journaliste sportif.
Bah, tu vois, dans les gens, moi j'étais dans la même promo, tu vois, que alors pas dans la même promo, il était avant moi, mais de Hervé Matou,
okay,
le présentateur du Canal Football, ouais, Club. J'étais dans la promo de Fred Lopez.
Okay.
Tu vois, dans les gens qui sont aujourd'hui connus, j'étais dans la promo de David Cosette, okay, qui commente le basket. Frédéric Viard qui commente le tennis. Mm. Voilà, donc on était un petit groupe. Alors, je te cache pas que les gars qui sortaient de Sciences Po ou de Fac de Lettres, quand tu leur disais je veux être journaliste de sport, c'est limite, ah, mais les journalistes de sport, normalement, c'est des anciens sportifs qui ont troqué le survêtement pour un costard. Ils n'avaient pas bien compris. Quand ils ont vu quel était notre parcours et quel était le plaisir qu'on avait, notamment à voyager, à être les grands témoins d'événements majeurs, ils se sont dit, c'est peut-être mieux que l'écho, c'est peut-être mieux que la politique à tendre son micro à l'Élysée tous les mercredis après le Conseil des ministres. Bon, mais ça, c'était cette époque où encore, au début des années 90, parler de sport, c'était presque mal, quoi. Tu pouvais pas mettre le mot journalisme avec sport. Quelle erreur. Parce que je considère, je suis un peu dur, mais je considère aujourd'hui que souvent, les meilleurs journalistes, en tout cas les plus polyvalents, ceux qui savent faire du direct, ceux qui savent vraiment travailler sans filet, ceux qui savent travailler très vite, quel que soit le domaine et quel que soit le support, sont des journalistes de sport. Quand vous demandez à un journaliste de l'équipe d'envoyer un papier de 5 feuillets 20 minutes après la fin d'un match, c'est une performance. Peu de journalistes sont capables de faire ça. Quand vous demandez à un journaliste de radio ou de télé d'être capable de faire du direct, puis d'écrire un papier, puis d'être sur un question-réponse avec un journaliste dans une session d'information, ce sont des compétences multiples et variées que n'ont pas forcément tous les journalistes. En tout cas, que n'avaient pas tous les journalistes à ce moment-là, parce que je pense que tout ça a évolué et qu'avec la multiplication des supports et le fait qu'aujourd'hui on ne travaille pas que pour un support. Vous êtes journaliste en presse écrite, mais on vous demande de faire un film avec votre smartphone, d'écrire un petit commentaire, de mettre une interview. Donc les polyvalences se sont accrues néanmoins.
Je pense que ça, c'est la nouvelle génération qui est un peu obligée de faire ça. Mais dans ta génération à toi, il y en a pas beaucoup.
Non, mais c'est pour ça. Mais moi, j'ai en plus, t'imagines, moi, je voulais faire du sport dans le journalisme et je venais d'une fac de sport. Et tu vois, je me souviens, on était à une table en U et le premier jour avec le prof, le directeur. Donc, on va passer un par un, puis vous allez nous donner votre formation et votre parcours. Ok, moi, je suis maître nageur et j'ai fait 3 ans de fac de sport. Et là, t'avais, mais tu sais, les bonnes bourgeoises parisiennes qui sortaient de la Sorbonne ou d'Assas qui, what? Il a fait une fac de sport? Donc, il a transpiré, mais qu'est-ce qu'il fout là? Sachant que j'avais quand même eu le concours.
Bah oui.
Et au concours, j'étais plutôt bien classé. Enfin, j'avais rien à envier et je m'en suis rendu compte après. J'ai fait un complexe au tout début.
Ouais.
J'ai fait un super complexe. Les premiers devoirs, je me suis dit, mais je vais être nul. Ils sortent tous. Et puis finalement, bah, ça s'est plutôt bien passé. Et aujourd'hui, quand je regarde ce qu'ont fait les gens de ma promo, j'ai pas à rougir. Il y a des parcours tellement variés, tellement divers. C'est ça qui est génial aussi dans ce métier. Mais enfin, en tout cas, j'échangerais pour rien au monde le mien contre n'importe lequel des autres.
Comment t'as fait pour dépasser ce complexe?
Parce que les notes au départ, tu te rends compte que, mais comme toujours, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais été très bon, j'ai jamais, sauf en médecine, été nul. J'étais dans la bonne moyenne. Et puis, tu vois, je me suis j'ai tout de suite compris que mon élément de prédilection, là où je me sentirais le mieux, c'est dans l'oral. Donc, tu vois, j'ai axé beaucoup ma préparation et ma formation sur la radio et la télé. Et comme très vite, j'ai commencé en même temps que mes études et en parallèle à travailler à la radio, à Radio France, bah très vite j'ai eu un bagage technique et un bagage même d'expérience qui était nettement au-dessus de ceux des autres. Et on était deux dans cette situation-là dans ma propos. Fred Lopez, qui travaillait déjà à Lyon, à Télé Lyon Métropole, et qui avait un bagage en télé juste énorme. Et puis moi qui faisais de la radio. Donc forcément, quand on était en radio ou en télé, on travaillait pour de vrai déjà, nous. Donc tu vois, on était à l'Institut pratique de journalisme, donc on pratiquait pendant nos études, mais on pratiquait en vrai. On était déjà, entre guillemets, payé pour faire ce métier.
C'est la meilleure façon d'apprendre.
C'est ce que je dis toujours. Je dis, les stages et un job en parallèle de tes études dans ton domaine, il n'y a rien de mieux. C'est les travaux pratiques en vrai.
Qu'est-ce qui t'a incité à aller à la radio? Multiplex.
Bah, tu vois, tu me parlais,
tu parlais de multiplex.
Ouais, multiplex. Bah, je rêvais, effectivement. Bah, j'ai commencé comme ça. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que... donc moi, j'ai fait mes études de sport à Caen. Et à Caen, donc je veux devenir journaliste. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon bâton de pèlerin et je vais frapper à la porte des rédactions. Et je vais d'abord à Ouest France où je rencontre Michel Le Néel, paix à son âme, qui était le patron des sports pour la région de Caen. Et il est plutôt sympa avec moi, mais il me dit tu sais, des profils comme le tien, il y en a plein, etc. Je reçois des... Je peux pas. Désolé, vraiment. Mais je lui dis, mais moi, je veux pas être payé, je veux être observateur. Et puis, à un moment, bah, être une petite fourmi, puis une fourmi qui grossit. Non, désolé, vraiment. Bon. Et je fais la même chose à Radio France. Et là, je rencontre un type qui s'appelle Francis Gauguin, qui est l'un de mes pygmalions dans ce métier, que j'ai souvent au téléphone, qui est un type que j'adore, que je respecte énormément. On a tendance à penser que les grands journalistes ou les meilleurs sont à Paris. Des gens du niveau de la modestie de Francis Gauguin, rédacteur en chef depuis plusieurs décennies à Radio France à Caen.
À l'époque Normandie,
toujours aujourd'hui.
Il
n'y en a pas beaucoup. Et ce type-là, il me dit, viens, il m'ouvre les portes. Et je suis observateur. Et puis je suis observateur plus, puis je suis observateur plus, puis au bout d'un moment je commence à mettre la main à la pâte. Je commence, on me balance une interview qui a été faite par un journaliste staffé, et puis moi je fais le montage.
Okay.
Et puis j'écris quelques petites brèves pour les journalistes, pour les présentateurs. Et puis de fil en aiguille, je deviens pigiste le week-end. C'est-à-dire que je suis étudiant en journalisme à Paris, et le week-end je vais à Caen, les deux jours, comme journaliste. Si tu veux, radio reporter, donc sur la région Normandie pour le sport et pour l'émission du dimanche soir qui s'appelait Hebdo Sport avec Michel Le Gorju. Et là, j'apprends mon métier. Mais tu vois, c'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis à ce moment-là, je devais payer mon billet de train 300 francs aller-retour et je gagnais sur le week-end 220 francs. C'est-à-dire que ça me coûtait 80 francs d'aller travailler de tôt le samedi matin à très tard le dimanche. Mais j'ai appris mon métier. C'est exceptionnel. Je ne les remercierai jamais assez. Si je devais mettre tout en haut l'expérience la plus importante qui me permet d'être là aujourd'hui, c'est incontestablement celle-là. Et c'est cette confiance. Et j'ai jamais oublié ça. C'est-à-dire que je me suis toujours, mais vraiment dit, tu seras Francis Gauguin plus tard avec les jeunes. C'est-à-dire, t'essaieras de les aider, même si t'as pas le temps, même si tu crois pas, même si t'as l'impression que le mec ou la nana est pas fait pour ça, le balance pas, le bazarde pas, dis pas, non, c'est pas possible. Et je le dis à certains jeunes, par exemple, que j'ai eu comme étudiant, parce qu'après, je suis devenu prof dans la même école de journalisme, et je leur dis, n'oubliez jamais, à 40 balais, respectez les jeunes de 20 ans, parce que ce sont vos successeurs, et c'est les gens que vous devez aider. Si tu tends pas la main à ces gens-là, aussi bon soit-il, à 20 balais, sans expérience, t'es pas bon. Mais pour devenir bon, il faut de l'expérience et il faut que quelqu'un, à un moment, te fasse confiance. Et j'ai eu la chance, moi, de rencontrer cette personne-là et ces personnes à Radio France. Et je crois que c'est la base, mais dans tous les métiers. Dans tous les métiers. Si tu commences à prendre de haut les jeunes et à dire « Ouais, non, mais plus tard, tu vois, ou à envoyer le papier classique, votre dossier, votre candidature est formidable, malheureusement, on n'a pas de place. » parce que c'est pas forcément une question d'argent au départ. Ouais. C'est une question d'expérience. Tu vois, moi, j'étais, enfin, entre guillemets, je payais pour acquérir cette expérience.
Ouais, je comprends.
Mais j'ai appris bien plus là qu'à l'école, beaucoup plus.
Aujourd'hui, tu fais ça justement, tu prends le temps de prendre sous ton aile des
ouais.
jeunes.
Bah, tu vois, j'en ai quelques-uns, voilà, et des gens dont je suis super content du parcours. Je pense à Pierre-François Lemonnier, qui est un type que j'ai. C'est marrant, je l'ai connu. Il était en terminale. Moi, je commentais un match. Je crois que c'était à Toulouse. Il est venu me taper. Il était en tribune de presse parce qu'il avait eu l'opportune. Il dit, je vais être journaliste. Bah, je lui donne quelques conseils. Puis, je le perds de vue. Ensuite, il fait le CFJ et il arrive au service des sports de TF1. Il me dit, tu te souviens de moi? Je me souvenais pas. Je suis malheureusement pas très physionomiste. Mais voilà. Et c'est quelqu'un que j'ai suivi, qui est devenu un de mes amis et qui est une des plus jolies plumes que TF1 peut compter dans ses rangs aujourd'hui, qui travaille maintenant en freelance puisqu'il habite en Asie, mais qui est un type formidable. Je pense à Pierre Galassio, que j'ai eu avec moi à Automoto, qui sait tout faire, qui est maintenant au service éco à TF1, qui est pour moi l'un des plus polyvalents des journalistes, et qui lui a fait l'IPJ aussi quelques décennies après moi. Donc j'aime bien effectivement aider les jeunes, et c'est aussi pour ça que j'avais accepté, en compagnie d'Hervé Matou, pendant quelques années, bien de transmettre le savoir qu'on m'avait enseigné précédemment dans l'école qui avait été la mienne. Et je trouve que c'est formidable, c'est très fort. Et je retrouve des mecs que j'ai eu, Antonin André, qui est l'un des patrons d'LCI aujourd'hui, je l'ai eu comme étudiant. Romain Husneau, qui est rédacteur en chef adjoint des journaux du week-end avec Cyril Auffray, c'est un de mes anciens étudiants. Voilà. Et c'est marrant parce que c'est des mecs, tu sentais à l'école qu'ils avaient un gros potentiel. Mmh. Aujourd'hui, ils le prouvent.
Ouais, c'est cool. Comment tu fais pour passer? Donc, tu démarres sur Europe 1 aussi, c'est ça? Une fois que tu as.
Alors, Radio France.
Radio France.
Et après, il y a une histoire incroyable. Paix à son âme, Eugène Saccomano, qui est mon deuxième Pygmalion. Deuxième Pygmalion. Ouh là 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 là.
Pour les jeunes qui ne connaissent pas, c'était l'une Eugène des voix. Eugène
Saccomano. Il y avait deux ou trois voix à la radio et à la télé. Tu avais Thierry Roland à la télé, tu avais Eugène Saccomano et tu avais Jacques Vendroux. Voilà les trois grandes voix du foot. Et moi, j'ai toujours écouté Europe quand j'étais gamin. Mes parents ont toujours écouté Europe. Et je suis donc étudiant en première année à l'IPJ. Et je suis toujours pigiste à Radio France. Et un jour, t'es trop jeune, toi, pour t'en souvenir, mais un journaliste de l'événement du jeudi écrit un pavé sur l'histoire d'Europe 1. Okay. Depuis la famille Siegel jusqu'à le début des années 90. Passionnant. Je lis ce bouquin et... j'apprends que à l'Institut français de presse, il y a une conférence et il y a Eugène Saccomano qui intervient dans cette conférence. Et moi, j'y vais pour le bouquin, mais je l'ai lu, donc tu vois, puis je connais l'histoire d'Europe. J'y vais surtout pour rencontrer Sacco. Et je le rencontre après. Et je lui dis, voilà, moi, j'aimerais bien un jour. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant en journalisme, mais je suis aussi reporter pour le week-end, pour le sport, à Caen. À Caen? Et là, il me dit, j'ai besoin de quelqu'un à Caen pour faire le multiplex.
Waouh.
Sauf que moi, j'y crois pas. Je rentre chez moi. Et à l'époque, t'as pas de portable. Moi, j'ai un téléphone que mon père m'a ramené des États-Unis avec un répondeur. Mais je lui donne un pauvre bout de papier. J'ai pas de carte, tu vois. Et lui, il me donne son numéro. Et moi, je lui donne le mien. Mais il me dit, envoyez-moi votre CV. Et une cassette. Et je le fais pas.
Pourquoi?
Mais parce que j'y crois pas.
Crois pas.
Parce que je me dis, mais il dit ça à tout le monde, donc j'y crois pas du tout. Je sors pas en sautant de joie en me disant peut-être que j'ai trouvé un job ou je vais faire un truc. Et le truc extraordinaire, c'est que c'est lui qui me rappelle. Je rentre un soir, bonjour, c'est Eugène Saccomano, vous vous souvenez, on s'est vu, vous êtes le jeune que j'attends pour quand? Putain, mais là, j'étais en vélo à l'époque dans Paris, j'étais un précurseur. Hein. Et donc je file à Europe 1, je lui donne mon CV et ma cassette. Et j'ai su après qu'il n'avait jamais écouté la cassette. Et 10 jours après, je commande Caen Saint-Étienne pour
sur Europe.
Pour Europe 1. Et les gens de Radio France.
C'était la première expérience de direct ou?
Mais ouais. Ah non, j'en avais eu à Radio France. J'en avais. Okay. Eu, en tout cas, sur le foot en première division à l'époque, j'en avais jamais eu. Et je suis le gamin qui arrive là-bas, mais c'est génial. Mais c'est un truc de fou et je ne le remercierai jamais assez. Et les gens de Radio France ont été super parce que je les ai appelés. Je dis, j'ai une opportunité, on me propose. Et je me souviens de Francis, il me dit, mais fonce, c'est ton rêve, fonce. Et donc, je me retrouvais dans une cabine à côté du numéro 1 de Radio France qui commentait, lui, le match pour Radio France. Et moi, je commentais pour Europe 1.
Quelle histoire.
Donc, tu vois, mais je ne sais même pas comment brancher mon matériel à l'époque. C'est Antoine Campos, qui est un ancien d'Europe, qui bosse à RMC à l'époque, qui m'aide, enfin, tu vois. Et puis, c'est comme ça que ça commence. Je fais tous les matchs à domicile de Caen. Et puis, comme ça se passe bien, Quand Caen ne joue pas à domicile, c'était le début du loto sportif. Donc, il y avait 6 matchs de Ligue 2, deuxième division à l'époque, qui étaient dans le loto sportif. Donc, Europe 1 avait un deal, donc on était obligé de les faire. Donc, j'allais à Charleville-Mézières, j'allais à Sedan, j'allais à Anceny, j'allais dans des endroits improbables. Mais je me régalais. Puis, je prenais la voiture d'Europe. Mais pour moi, le rêve, la voiture siglée Europe 1 avec à l'intérieur le téléphone. T'imagines un téléphone de voiture. Radiocom 2000, ne quittez pas, votre correspondant va vous répondre. Et là, mais les nanas, mes potes, etc. Je partais à Charleville-Mézières, j'avais 4 heures de route, mais je faisais 4 heures au téléphone. Et le kiff, c'était « Mais t'es où, Denis ?»« Bah, je suis dans la voiture. Je vais commenter un match de foot. »« Mais t'es dans la voiture. Bah, oui, j'ai un téléphone de voiture. » Tu vois, Radiocom 2000, ne quittez pas, tu vois. « Allô ? Ouais, c'est Denis !» Tu vois, c'est magique, c'est des moments... et c'est pour ça, enfin... Sacco, qui est mort il y a quelques mois, je racontais ça à sa femme... Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi, même si on a eu des périodes un peu plus difficiles ensuite, parce que bon, c'est la vie. Mais voilà, et puis la confiance. Tu vois ce que je t'ai dit, la confiance aux jeunes. Il n'a pas écouté la cassette.
Ouais, ça, c'est fou.
Il n'a pas écouté la cassette. Ouais.
Juste, il était convaincu par rapport à ce que tu...
On s'est rencontrés. Ouais. On s'est rencontrés une première fois, une deuxième fois dans son bureau. Je mesure 1m92, c'est un petit bonhomme. Il était assis dans son bureau. Il avait un bureau avec des affiches de sport. T'imagines, à l'époque, moi, mon rêve, c'était d'avoir l'équipe gratos sur mon bureau. Lui, il avait l'équipe. Je voyais Le Monde, Libé, Le Figaro, tout ça. Avec Marc-Eugène Sacomano, avec un autocollant sur le... C'était son journal. Putain, mais c'était pour moi... Et après, j'ai été salarié à Europe 1, salarié à Eurosport, puis re-salarié à Europe 1. Enfin voilà, c'est une belle histoire. C'est pour ça que je resterai ad vitam aeternam, attaché, lié à Europe 1.
Comment tu passes de la radio, du format radio au format télé? Parce que tu dis que tu travaillais à Eurosport, tu étais à l'antenne à Eurosport?
Alors ouais, j'étais à l'antenne. Au début, il n'y avait pas d'antenne. J'étais derrière, puisqu'on faisait les news.
Ah oui,
mais à une époque... Quand je commence à Europe et que je finis mon école, donc il faut imaginer que ma deuxième année d'école, je suis beaucoup plus à Europe 1 qu'à l'école. Ouais, mais j'ai l'autorisation et j'ai un deal pour que mes papiers de radio soient mes papiers d'école. Et puis, je me souviens, j'avais comme prof Aude Morachini et Thierry Gilardi, paix à son âme aussi, en télé, et qui me disait, laisse ton... Thierry, il avait tout de suite compris. Je me souviens, c'est devenu un pote après, mais il me dit, hey, Denis, t'es dans la vraie vie. Qu'est-ce qui est mieux? C'est que tu sois européen, que tu fasses des papiers ou que tu sois avec nous. Eh, fonce. Donc, j'étais pas beaucoup à l'école. Et puis, après, si tu veux, je suis pigiste à Europe, mais avec quasiment un deux tiers de temps.
Ouais.
Et je suis pigiste à Eurosport avec quasiment un deux tiers de temps. C'est-à-dire que de 8h à minuit, je bosse. Je gagne super bien ma vie parce que je suis pigiste partout. Mais j'apprends plein de trucs. Et puis, à un moment, en 93, Eurosport embauche ses premiers journalistes et ils décident de m'embaucher. Donc je vais voir Europe qui me dit bah, « Nous, on peut pas t'embaucher, mais tu reviendras bosser un jour pour nous, c'est sûr. » Donc je suis embauché à Eurosport de 93 à 96 jusqu'au jeu d'Atlanta compris. Je vais à Atlanta puis je termine après. Et je signe ensuite à Europe 1.
Ok.
Et je fais 96-99 à Europe 1. Et en 99, là c'est un moment improbable, Xavier Couture, qui est le numéro 3 de TF1.
Ouais.
Patron de l'antenne, mais aussi patron des sports, m'appelle et me dit « Bonjour, c'est Xavier Couture. Oui,
parfaite
bonjour. »
Imitation.
Et il me dit à ce moment-là « J'ai envie de vous rencontrer, je voudrais travailler avec vous, vous avez une voix de fakir. »
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et je lui dis, ça veut dire quoi une voix de fakir? T'inquiète, c'est positif. Quand est-ce qu'on peut se voir? Demain 15h. Demain 15h, de toute façon, j'aurais eu n'importe quel rendez-vous. Bah, d'accord.
Il faut faire sauter le rendez-vous à ce
moment-là. Voilà, donc je me retrouve dans son bureau, ici, dans ses locaux, au 13e étage, un immense bureau avec une table carrée en marqueterie, un truc. Enfin, c'était l'époque de TF1, avec des écrans partout, quelques dossiers, et le mec, beau costard italien. Et je me retrouve avec lui. Et on discute, et il me dit, je veux bosser avec toi. Mais il me dit, t'as quoi comme... Bah, j'ai, moi, je suis CDI à Europe. Eh, je peux pas te prendre en CDI, je peux te prendre que à la pige. Tu gagnes combien? Je lui donne mon salaire et il me propose, à l'époque, 5000 francs de plus. Ce qui est beaucoup.
5000 francs de plus,
c'est... Il dit, quoi que tu fasses, ouais, le nombre de piges, je t'assure ça par mois. Tu viens ou pas? Bah, j'ai dit, laissez-moi réfléchir. Eh, on se tutoie, hein. Dans ce métier, on se tutoie. D'accord. Laisse-moi, monsieur, réfléchir, limite comme ça, tu vois. Et je réfléchis 2 heures et je le rappelle, je dis c'est bon. J'ai même pas prévenu Europe à l'époque que je m'en allais. Mais je dis c'est bon. Et il me dit je t'embauche dans l'année. Et on est en 99 à ce moment-là, tu vois, il y a un peu plus de 20 ans. Et c'est comme ça que ça commence. Et je suis pigiste. Et puis, couture devient mon troisième Pygmalion. Je fais peu de choses dans la vie avec des grands changements sans lui demander son avis, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai une très grande estime. Et puis arrive Koh-Lanta, et puis arrive Domino Day, et puis si tu veux, le fait qu'il soit à la fois le patron de l'antenne, le gestionnaire des programmes avec Guillaume de Vergès et le patron des sports, fait que la passerelle elle est toute trouvée et que ben, il me parle avec ses deux casquettes, les sports et l'antenne, donc le divertissement et d'autres. Et c'est comme ça que ben voilà, ma vie évolue et change à TF1 grâce à Xavier Couture, avec la bénédiction. Et c'est des gens que j'apprends à connaître, parce que je ne les connais que à travers les interviews que je peux lire d'eux, ou parce qu'ils sont inaccessibles. Un Étienne Moujotte, un Guillaume de Vergès, enfin les gens qui font cette maison et qui ont fait énormément pour moi. Et je pourrais citer Poivre d'Arvor, qui a fait énormément pour moi, Pernaud, qui m'a mis toujours dans un climat de confiance. Et voilà, et c'est marrant, parce que ce sont des gens pour qui j'ai une très grande estime aujourd'hui. Et tu vois, j'ai une relation amicale avec Couture. Il était à mon mariage. J'ai une relation extrêmement forte avec Poivre d'Arvor. Très, très forte aussi avec Pernaud. Voilà, c'est... Ça fait partie aussi, je crois que ma vie ne serait pas la même sans ces rencontres. C'est ce que je dis toujours. Il y a les études, il y a le travail, et il y a le talent, il y a la chance, mais il y a surtout les rencontres. Je crois que dans la vie, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Mais c'est un peu comme un gamin. Quand un gamin est dans un manège, tu sais, le fameux pompon qui tombe là.
Ouais.
Tu mets 30 gamins dans un même manège et le pompon, tu le fais descendre à intervalles réguliers. Ben, tu te rends compte que sur les 30 gamins, il y en a 5 qui vont l'attraper régulièrement, 5 qui vont l'attraper de temps en temps, 5 une fois ou deux, puis tous les autres, eh ben, ils vont tendre la main avant ou après. Ils vont toujours louper le pompon. C'est l'histoire de la vie pour moi, ça. Il faut savoir attraper le pompon au bon moment.
C'est une belle métaphore de l'existence. Le pompon et le manège, je l'avais pas du tout. Donc tu te retrouves là à l'antenne. C'est quand même un.
Je me retrouve au service des sports. Donc je fais beaucoup, beaucoup pour le JT. Parce que je commence à montrer un peu ma gueule au JT.
Voilà, c'est ça. T'avais envie de montrer ta gueule, toi, à l'époque?
Mais je me posais pas la question. J'avais envie de progresser. J'avais envie de devenir grand porteur. J'avais envie de faire plein de choses. Et puis voilà. Et puis il y a un truc qui est marquant au niveau de l'info. C'est que c'est le jour du c'est terrible, parce que souvent les moments marquants correspondent à un drame. Mais le drame du Concorde. Le Concorde se casse la figure à Gonesse, là. Et moi, je suis avec mes cassettes, encore à l'époque, on parlait de cassettes. Et je vais faire un sujet sur Peugeot qui arrête la Formule 1. Et là, je me fais alpaguer, Denis, le Concorde. J'étais même pas au courant, le Concorde vient de se casser la gueule, tout le monde est mort, enfin, etc. On a besoin de toi pour faire des petites pastilles, on va faire une édition spéciale à 18h30. Donc, je me retrouve avec mon monteur stagiaire, Sergio, qui est toujours à TF1, et nous voilà en train de commencer à monter 3 conneries pour le 18h. Je me souviens, Namia Sevenet, qui était le patron de la rédac, alors vous êtes prêts? Et puis petit à petit, et puis je fais à 19h une autre opération, une autre page spéciale, là je fais un petit complet d'une minute 30, et là t'as Namia et Claude Carré à l'époque, numéro 1, numéro 2 de la rédac, qui me disent « Denis, tu nous fais le round-up au départ 6-7 minutes, si c'est 8, c'est pas grave. » J'ai une heure pour faire ça. Avec mon monteur qui est
le
heureusement...
Le roundup, pour expliquer, c'est... Le...
Ah ben tout oui. Tout, de A à Z. Il s'est cassé la gueule à telle heure, il y a tel ou tel truc, les premières réactions, les premières informations, enfin tout ça. Sauf que j'ai une heure pour faire ça. Donc je peux pas l'enregistrer. Donc en plus, c'est là que je te dis que les journalistes de sport ont une vraie polyvalence. C'est là que je me mets dans une cabine. Et je fais tout mon commentaire en direct, début du 20h. Et ensuite, Namia se dit « c'était très bien, machin ». On fait 9 minutes à 22h30 là, pour la spéciale de deuxième partie de soirée. Et tu vois, c'est ces choses-là qui ont fait aussi qu'à TF1, tu vois, bah, il faut,
saisir
il faut être là au bon moment, saisir les opportunités. Et entre ça, donc cette crédibilité à la rédac et puis ce que je faisais en dehors, tu vois, la voix off du premier Koh-Lanta, ouais, l'écriture des textes du premier Koh-Lanta. Voilà, il faut, je crois qu'il faut attraper le pompon, pour revenir à la métaphore, au bon moment. Et puis, il n'y a pas que attrape le pompon. Il faut ensuite le garder, le pompon, et en faire bon usage. Donc, c'est là aussi où il ne faut pas se louper. Et c'est pour ça que je dis souvent à mon fils que la chance, c'est une chose, mais ce qui compte le plus, c'est le travail. Donc, quand tu as le pompon...
Ton fils, il a quel âge là?
Il a 19 ans.
19 ans,
ouais. Ouais. Il est en prépa. Il en chie.
Comment vient l'opportunité de faire Koh-Lanta?
Couture. Toujours Xavier Couture et Guillaume de Vergès. Voilà.
Comment ils décident à un moment donné de te foutre?
Il y a Hubert Auriol qui a fait la première saison,
ouais,
qui était le patron du Dakar, qui n'avait pas le temps de faire la seconde, dont c'était pas le métier. Il faut trouver quelqu'un d'autre.
Toi, tu faisais la voix off.
Je faisais la voix off du premier. Et j'avais présenté la dernière émission en troisième partie de soirée à minuit enregistrée, où il n'y avait pas du tout d'enjeu, où c'était, ouais, juste retrouver les aventuriers endimanchés. Et voilà, et ça s'était plutôt bien passé. Donc ensuite j'ai fait un training, et puis d'un seul coup on m'a dit, Denis, c'est toi. J'ai dit super, et je suis parti pour le premier Koh-Lanta. C'était au Costa Rica, et ça ne s'est pas arrêté depuis 20 ans.
Comment tu fais le lien entre Koh-Lanta, la présentation de Koh-Lanta, et ta passion pour le sport?
C'est, je dis toujours, les compétences et les qualités qu'on me reconnaît en tant que journaliste sont exactement les mêmes que j'utilise sur Koh-Lanta. Voilà, capacité de direct, parce que même si Koh-Lanta est différé, tout ce que je fais, c'est dans les conditions du direct. Et puis Koh-Lanta, pour moi, c'est du sport. C'est-à-dire que tu mets 20 mecs sur une ligne de départ et à la fin, il n'y en a qu'un. Donc c'est une compète avec la notion psychologique. Néanmoins, c'est une compétition avec des gens qui gagnent, des gens qui sont contents, des gens qui sont tristes, des gens qui sont éliminés. C'est à la fois l'histoire de la vie, mais c'est aussi l'histoire du sport. Donc pour moi, il y a absolument aucune interdiction de faire les deux. Et il y a qu'en France que certaines personnes un peu étriquées pensent qu'on peut pas être journaliste et animateur. C'est pour ça que moi je considère que mon métier, c'est pas ni journaliste ni animateur, je me considère comme présentateur journaliste. Voilà ce que j'aimerais mettre si j'avais une carte de visite. J'en ai pas parce que ça ne se fait plus, mais je mettrais journaliste présentateur. Voilà ce que serait la définition de mon job aujourd'hui. Mais voilà, pour moi, c'est un non-événement même de se poser la question. Pour ma grand-mère, paix à son âme aussi, à l'époque, il y avait des gens qui faisaient de la télé et des gens qui n'en faisaient pas. Elle faisait pas la différence entre Michel Drucker et Patrick Poivre d'Arvor. Bien sûr qu'il y en a une, mais c'est une différence qu'on fait nous, beaucoup plus que le téléspectateur.
Je suis assez d'accord. Il y a pas mal de gens qui disent que je pense que ces gens-là ne connaissent pas Koh-Lanta, mais qui disent que Koh-Lanta est une émission de télé-réalité, alors que pour moi c'est une épreuve sportive, en fait, ouais, comme tu dis. Et d'ailleurs, j'avais vu une interview d'un candidat ou d'une candidate, je sais plus, qui disait que si Koh-Lanta avait pas été télévisé, il ou elle l'aurait fait quand même, quoi. C'est quoi ton point de vue sur le sujet?
Moi, si tu me dis de la télé-réalité sans la connotation péjorative, ça me va, parce qu'effectivement, c'est la réalité de la vie filmée. Mais le JT, c'est la télé-réalité, c'est la réalité de la vie. Quand tu filmes une manifestation, c'est la réalité de la vie de ces gens à un instant T. C'est pareil pour Koh-Lanta. Maintenant, mettre le mot télé-réalité avec la connotation péjorative, ça m'ennuie et ça me vexe même un peu, parce que je considère que c'est, pour moi, effectivement, c'est une émission d'aventure, c'est du grand spectacle de l'aventure. Et puis, c'est aussi un peu une photographie de la vie. Arrêtons de se voiler la face. Dans la vie, quand t'es dans un boulot, t'as envie de progresser. Et pour que tu progresses plus, t'as plutôt intérêt à progresser plus que ton voisin, avec tes armes. Dans Koh-Lanta, c'est ça aussi. Alors, la nature humaine n'est pas tout le temps à 100% très belle et très reluisante. Mais il y a quand même des choses. Dans Koh-Lanta, il y a des moments effectivement de tension, mais il y a aussi des moments d'amitié incroyables. Quand je vois l'accueil là sur les réseaux sociaux, des anciens pour les nouveaux, sois bienvenu, tu fais partie maintenant de la bande des copains, avec un K, K-O-H-P-A-I-N-S.
Une vraie communauté.
Il y a une communauté, ouais, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont fait Koh-Lanta et ceux qui ne l'ont pas fait. Et quand je vois ça, quand je vois les amitiés qui sont nées à Koh-Lanta, je parle même pas des histoires d'amour, c'est juste exceptionnel. Et il n'y a pas deux émissions à la télévision, toutes chaînes confondues en France, qui permettent un relationnel comme celui-ci. Et il n'y a pas deux émissions où les gens te diront qu'ils aient été éliminés au bout de trois jours, ou qu'ils aient gagné, qu'ils aient galéré, ou que ça a été plutôt facile, qu'ils ne te disent pas « mais je repars demain, mais c'est génial, après la naissance de mes enfants et mon mariage, s'il se passe bien, c'est le plus bel événement de ma vie ». Et c'est moi, c'est ça qui me plaît. Maintenant, que certains disent ah, « c'est de la télé-réalité ouais. », en tout cas, je ne mettrai jamais ça dans la même lignée que d'autres émissions de télé-réalité. Je ne critique pas, mais c'est aussi pour ça que ça m'embête de temps en temps que certains candidats de Koh-Lanta fassent des émissions de pure télé-réalité ouais, après. Parce que j'estime que c'est tellement différent que y a un fossé entre les deux et c'est compliqué d'avoir une passerelle.
Sacré Moundir, vraiment.
Ah non, Moundir, c'est très différent.
Ah, pardon.
Moundir, c'est très différent.
Ok, vas-y, explique.
Parce que Moundir, lui, il s'est dit, après Koh-Lanta, j'ai profité de ma notoriété pour embrasser cette carrière d'animateur. Je veux devenir animateur. Et il a énormément bossé pour y arriver.
Ça,
et il y est arrivé.
J'en doute pas.
Donc moi, chapeau bas, Moundir. Moundir, alors, il a voulu entretenir cette notoriété. Il a bien fait. Mais ensuite, il est devenu animateur. Il a eu sa propre émission. Non.
Okay, okay.
Attention, Moundir, c'est un animateur de télévision pour qui j'ai le plus grand respect. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de respect pour ceux qui font une autre émission. Mm. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça m'embête. Prends un exemple, Tiffany, qui veut devenir comédienne. Mm. Voilà, je pense qu'elle n'a pas pris la bonne voie. Mais on en a discuté. C'est ça qui est bien, c'est que moi, j'ai un bon rapport avec eux.
Ouais, ouais.
On en a discuté tous les deux. Elle m'a donné ses arguments. C'est une fille intelligente. Elle me l'a écrit magnifiquement bien. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Mm. Je ne lui souhaite que du bonheur. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est très heureuse et qu'elle en vit très bien. Tant mieux pour elle. Mais à un moment, je suis un peu comme le gardien du temple.
Oui.
J'ai envie de garder mes ouailles avec moi. Et voilà pourquoi j'essaye en tout cas de les alerter sur ce que ça peut entraîner dans leur vie et ce que ça peut leur fermer peut-être aussi comme porte.
Est-ce qu'il y a, je sais pas, deux ou trois moments qui t'ont vraiment marqué, alors que ce soit des trucs qui se soient passés devant la caméra ou derrière la caméra, toi en tant qu'animateur depuis ces 20 ans quoi?
Il y en a pas deux, trois.
Il y en a des dizaines, mais
des centaines.
On pourrait faire une émission complète là-dessus.
2003, la rencontre avec ma femme, qui était journaliste sur Koh-Lanta, qui est devenue la mère de mes trois filles.
C'est vrai que c'est une histoire.
Ça. Voilà, ça, c'est une belle histoire. La rencontre avec les candidats. Mais voilà, l'évolution, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont comme à la télé quand ils arrivent. Oh là là, c'est le mec de Koh-Lanta, et puis c'est l'univers de Koh-Lanta, puis c'est plein de caméras, puis c'est des moyens incroyables. Puis petit à petit, ben tout ça. Alors dans l'émission, moi j'ai un rôle impartial et il y a une distance. Et puis ensuite, je dis pas qu'on devient pote, mais en tout cas, par exemple, on se tutoie. Ils peuvent m'appeler. Tu vois, je prends l'exemple d'Aurélien de la saison dernière. Il me dit tiens, j'ai toujours pas reçu ma convocation pour Ninja Warrior. T'inquiète pas, je m'en occupe. voilà, des choses comme ça. Je suis super fier qu'il fasse Ninja Warrior, par exemple, parce que pour moi, c'est dans la lignée de Koh-Lanta. C'est une épreuve sportive, tu vois. Et quand je vois Claude qui est finaliste l'année dernière, quand je vois un Dylan qui est le premier candidat entre guillemets people.
Dylan et ses fameux mocassins qui ont marqué
Gucci.
L'histoire de Gucci.
Dylan, qui est le premier à réussir à terminer et à buzzer, terminer un parcours de Ninja Warrior. Voilà, ça c'est une vraie fierté. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai de bons rapports avec ces gens-là, mais ces rapports, ils sont teintés d'admiration. C'est-à-dire que c'est la plus dure des émissions de la télé. C'est-à-dire que tu mets des gens dans des conditions dans une précarité absolue. Quand on dit à des gens, tu vas dormir par terre avec des gens que tu connais pas et tu vas manger ce que tu trouves, mais il n'y a pas plus difficile. Donc, quand tu es capable de vivre 40 jours comme ça, en perdant 8 à 10 kilos et en étant toujours performant dans les épreuves, et en étant... Tu sors de ton corps pratiquement. Mm-hmm. Ton esprit sort du corps à ce moment-là. Il y a des performances sportives. Les mecs, ils ne l'auraient pas fait en mangeant leurs 3 repas par jour. Et là, ils le font en étant famélique, en étant complètement décharné. Mais parce que moi, je suis fasciné par les derniers dans Koh-Lanta. Ils sont sur une espèce de coussin d'air virtuel. Et ils sont dans une... Mais ils découvrent, ils sont allés tellement loin... des gens le disent.
Quand tu dis les derniers, tu veux dire les finalistes.
Les finalistes, voilà, ceux qui tiennent 30, 35, ouais. 40 jours. C'est beau de les voir comme ça. De les voir. Il n'y a plus de vernis. Mm. La carapace, elle s'est fendue. Et je pense que ce sont les rares moments où ils sont totalement eux-mêmes. C'est dur dans la vie. Il y a des gens qui ne sont jamais complètement eux-mêmes. C'est dur d'être complètement soi-même. Et je pense que Koh-Lanta, notamment pour les derniers, offre cette possibilité.
C'est l'un des trucs que je trouve formidable avec cette émission, c'est que contrairement aux émissions de télé-réalité plus classiques, où en général les candidats sont dans des conditions vraiment cool, on les met dans des conditions, enfin on met les candidats dans des conditions tellement dures qu'il y a toujours, même pour les plus stratèges d'entre eux, etc., il y a toujours un moment donné où le comme tu dis, le vernis craque et qu'on finit par retrouver la vraie nature humaine. Toujours des moments de breakdown, et je trouve que c'est en ça que cette émission montre un peu la vraie nature humaine. Et comme tu dis, pas forcément que des moments très, cool, quoi. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de cette émission, quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, reparlons de cette saison, si tu veux bien, qui arrive là. Donc, ça arrive le 21 février. Ouais. Vous venez mettre pour la première fois, hein, si je ne me trompe pas, des anciens avec des nouveaux qui n'ont jamais participé.
Tu te rends compte, ça va faire 20 ans que Koh-Lanta existe et on trouve encore des subterfuges pour rendre une saison totalement inédite. C'est ça aussi qui me fascine. Cinq anciens qu'on appelle des héros qui ont marqué l'histoire de Koh-Lanta, Claude Théoura, qui sont les détenteurs du record du nombre de victoires dans des épreuves individuelles, qui reviennent. Théoura, qui est vraiment...
Théoura, c'est son combien? C'est son troisième?
Je crois que c'est le troisième.
Troisième ou quatrième?
Je sais plus.
Mais
en tout cas, il revient. Moussa, qu'on a vu deux fois aussi, qui est un des vieux de la vieille, puisque sa première saison, c'était avec Moundir, en 2003. voilà, il me le rappelait l'autre jour, ce qui ne nous rajeunit pas. Et puis, Sarah, qui fait des pompes, hein, qui avait cette formule et ce slogan magique, il n'y a pas de fatigue qui soit. Et puis Jessica, voilà, qui est une banlieusarde très mignonne et très qui s'accroche, quoi, qui est capable de donner. On parlait du dépassement de soi. Elle est, j'ai envie de dire, la preuve vivante de cette capacité à se dépasser. Et puis à côté de ces cinq héros, il y a 14 anonymes, 14 nouveaux aventuriers qu'il va falloir apprendre à connaître, à apprécier, à découvrir. Et bah, au total, ils sont 19. Et alors, je ne rentrerai pas totalement dans le détail, mais au début, il y aura trois équipes. Voilà. Une équipe avec des héros, puis deux équipes avec des anonymes et des nouveaux. Okay. Et puis petit à petit, chemin faisant, les gens vont peut-être se retrouver à un moment ou à un autre.
Et j'imagine que ceux qui sont castés et qui viennent faire cette émission cette année ne sont pas au courant. Et
mais personne n'est au courant.
Peut-être pour débunker un peu toutes les rumeurs de vous filer de la bouffe aux candidats, etc.
Enfin, on peut débugger ce que tu veux. Ça fait 20 ans que je débugge, donc moi je veux bien débugger tout ce qu'on veut. Il suffit de demander aux candidats, tu sais. Ouais. On a eu 400 candidats depuis le début quasiment. Tu crois qu'il n'y en a pas un qui aurait balancé en disant bah, « Attends, hey, on dort à l'hôtel, on nous file du PQ, une brosse à dents et on mange trois fois par jour comme vous
bah, !» Il ne serait pas dans cet état-là à la fin. Non, sans
voilà, donc, moi, j'ai, si tu veux, les meilleurs ambassadeurs et les meilleurs défenseurs, les avocats du programme sont les candidats. Maintenant, c'est vrai que moi, je passe ma vie tous les jours. On me dit au moins une fois « Oh, qu'est-ce que t'es grand ?» et c'est truqué Koh-Lanta. Au moins une fois.
C'est fou.
Voilà, donc voilà, qu'est-ce que t'es grand? Je dis, je suis en pleine croissance. Et c'est truqué Koh-Lanta, je dis, bah, peut-être, mais en fait, non. Enfin, fais-toi ta propre opinion, pas de problème. Pas
bien,
de souci.
Viens faire le jeu, on en reparle
voilà.
La fois.
Mais non, non, mais. Enfin, voilà, mais les candidats se rendent compte très, très vite des conditions. Mais ce qui est intéressant aussi cette année, c'est que personne n'est au courant de rien. C'est-à-dire que quand les héros arrivent même devant moi, les cinq, mais ils sont persuadés qu'il n'y a que des héros. Mais Claude, il me dit. Mais quand je comprends qu'on n'est que 5, mais au début, j'ai les boules. Je me dis, mais je vais me retrouver avec des anonymes et ça va faire quoi voilà. Et les anonymes, au départ, ils disent, bordel, on est 14. On va faire combien d'émissions si on est 14? Parce que si on en élimine un tous les 3 jours, ça fait quand même pas beaucoup d'émissions. On se retrouve à 4 à l'orientation, 3 sur les poteaux. Enfin, c'est bizarre, quoi. Mais ça commence, tu vois. Les équipes sont formées, la première épreuve, c'est maintenant. Le premier conseil, c'est maintenant. Elle était à 14. Et après, le premier conseil, t'es à 13.
Ouais.
Et puis, de l'autre côté, t'as nos 5 héros qui vivent leur vie.
Ok.
Combien de temps? Il faudra regarder.
Oh, j'ai hâte. Tu m'as saucé. Je peux pas terminer cette interview sans te parler de ce fameux... Parce que t'es devenu un mème, tu sais, sur Internet.
Ouais, ça me fascine.
Avec ton fameux « Ah !»
Ouais.
Qui est devenu...
Ah, tu le fais bien, dis donc.
Et j'ai taffé. Hein.
Ouais, non, pas mal, pas mal, pas mal.
Ton fameux « Ah !» qui est devenu un mème. Comment tu le découvres, toi?
Alors, je le découvre au départ quand l'auteur m'envoie la vidéo.
Khaled, c'est ça?
Ouais, je crois.
Qui fait le remix, là, c'est
ce remix. Ouais. Et je trouve ça marrant.
Ouais.
Je trouve ça marrant. voilà, ça m'amuse. Et puis, je suis dépassé par le truc. Parce que, franchement, hein, ce A, c'est pas un gimmick que j'ai. Je dois le dire une fois de temps en temps, mais c'est lui qui le trouve. Il en trouve deux ou trois sur 15 saisons. Mais je dis pas A à tout bout de champ. Donc, si tu veux, je suis rattrapé puis dépassé par ce A. Et puis, je me souviens qu'à un moment, ça a tellement de succès, des millions de vues, qu'il est même emmerdé un peu par la SACEM parce qu'il a forcément pris des... je me souviens de ça. Donc, mais bon, tout ça s'estompe. Et puis ensuite, ça me dépasse parce que, bah, effectivement, je passe devant un collège ou dans une école primaire. Ah, on passe son temps à me faire ça. Quand je vois, mais de temps en temps, ça m'arrive sur le périph', je vois un gamin au volant qui, au lieu d'avoir le A de apprenti, tu sais, le A rouge pour les jeunes conducteurs, mais il y a le AH avec ma photo. Donc, tu vois, c'est des trucs.
Ça, c'est du génie.
Ça m'a totalement dépassé, tu vois. C'était pas des trucs. Enfin, c'est marrant parce que, voilà, typiquement, la com.
Ouais.
Et tu vois, je pense qu'à TF1, personne n'a favorisé ça. Moi, j'ai absolument pas favorisé ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est devenu viral, j'ai envie de te dire, malgré moi. Alors, ça m'amuse. Tu vois, si jamais c'était devenu viral sur un putain ou un truc comme ça m'aurait vraiment agacé. Ça m'aurait même embêté. Mais là, je trouve ça plutôt rigolo. Et tu vois, même quand j'anime quelque chose pour une entreprise ou que je fais un film pour quelqu'un, tu vois, quand je rencontre des gens, je peux te filmer, tu peux me faire le A. Tu vois, donc voilà, je me retrouve un peu con dans ces cas-là parce que tu vois, t'es tout seul. Ah, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, ça m'a pas du tout, si tu veux, pris la tête. Je me suis pas dit, soit il faut que je le dise, mais je t'avoue si. Je le mets de temps en temps sur les coms. C'est-à-dire que c'est plus moi qui écris les coms, mais Corinne Vaillant, la réalisatrice du programme.
Oui, j'allais te demander. Me met de tu temps continues en temps à écrire
des,
tes textes,
des petits A. Non. Okay. Bah, ça fait belle lurette que non.
Okay.
Non.
Plus le temps.
Corinne les écrit merveilleusement bien.
Ok. Oui, c'est vrai que les textes.
Ouais,
si vous connaissez
bien.
Pas Koh-Lanta, regardez Koh-Lanta parce que les
voilà,
textes.
La réalisatrice
sont...
de Koh-Lanta est une grande journaliste. Voilà, même si aujourd'hui.
C'est la réalisatrice, pardon, je savais pas.
Bien sûr, okay. Elle est journaliste, elle vient de Public Sénat au départ. Enfin voilà. Autour de Koh-Lanta, il y a des gens sérieux. Hein. Bah, on fait du divertissement, mais voilà. Le producteur est un journaliste. Voilà, qui a fait l'école de Lille. Voilà, donc non, il y a du level, comme disent les jeunes.
Bon, merci beaucoup, Denis, pour ce moment.
Mais c'était un plaisir.
C'était super.
C'est vrai.
J'ai appris plein de choses.
Bon, bah, tant mieux.
Est-ce que t'as appris des trucs aussi, toi, Laura, sur...
Bon, bah, voilà.
Et puis.
Mais non, mais je le fais assez peu, ça.
Mais j'ai pas trouvé vraiment beaucoup d'interviews sur toi.
Ah, si tu dis tout, toi, si tu t'appelles Philippe Vandel et t'as un dossier complet sur chaque personne, peut-être que, mis bout à bout, tu dois avoir toutes ces infos parce que je les ai déjà données, mais c'est sympa de le faire dans la. C'est comme ça, sous la forme de la discussion.
Un immense merci à toi.
C'était... Merci.
Et
merci
puis rendez-vous beaucoup. Le 21 février.
Le 21 février, je compte sur vous.
Koh-Lanta.
Mais toi, fais gaffe, hein, parce que t'es tout mince. Hein, donc si jamais tu fais Koh-Lanta, il faudra te emplumer d'abord.
Il paraît que. Oui, alors c'est pas mon objectif dans la vie, hein, vraiment, mais il paraît qu'il faut prendre quelques kilos. Enfin, j'ai suivi des trucs. Hein,
les plus stratèges avant de partir, ils prennent quelques kilos et ils ont raison.
Exactement. À bientôt.
À bientôt.
Salut.